FM, le journal.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la matinée sur Guira FM. Les titres. Le directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, demande aux candidats admis au concours de recrutement des élèves assistants et surveillants pénitentiaires des provinces de rester dans leur localité. Le procureur général de la Cour d'appel de Bangui, Éric Didier Tambo, se réjouit du bon déroulement de la session criminelle. Prévention et lutte contre le virus Ebola en Centrafrique. Le ministère de la Santé a lancé hier une ligne verte qui servira pour signaler tout acte suspect à Bangui. Plus de détails sur le numéro 1212 dans ce journal. Merci de nous être fidèles sur Guira FM.
Guira FM.
Le directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, demande aux candidats admis au concours de recrutement des élèves assistants et surveillants pénitentiaires des provinces de rester dans leur localité pour passer des enquêtes de moralité. Position exprimée hier lors d'une interview à Guira FM suite à une confusion où des candidats des villes de Bambari, de Boire, de Bangassou et de Berberati cherchent à venir à Bangui pour cette enquête. Selon M. Alexis Ndouyabela, les enquêtes de moralité se font dans chaque ville et non à Bangui. Nous l'écoutons au micro de Fridolin Ouambombo.
Alors, je tiens à préciser, pour l'enquête de moralité, les candidats doivent rester sur place. C'est un travail purement technique interne. On ne s'immisce pas dans le travail ni de la gendarmerie, ni du service de la police administrative. Donc, il se trouve que ces jours-ci, le directeur du service police administrative a balancé un communiqué demandant aux candidats admis au concours de surveillants pénitentiaires de se rapprocher de leur service technique pour retirer des formulaires d'enquête de moralité. Parce qu'avant, c'est des candidats qui sont admis, les policiers ne les connaissent pas. Donc pour leur permettre d'y aller, c'est comme ça que ça se passe. Les candidats de province sont appelés le DG, Bambari, Berberati. On leur dit, mais qu'est-ce qu'on fait, monsieur DG? On a écouté un communiqué, est-ce qu'on doit descendre? Et entre-temps, même déjà au lendemain du communiqué, il y en a qui s'étaient présentés et dire non, ils sont venus pour l'enquête de moralité. Est-ce qu'ils doivent venir ici à Bangui? Non. L'enquête de moralité se réalise au lieu où vous habitez régulièrement. Après le formulaire, ils vont effectuer une descente sur le lieu, là où vous habitez. Les candidats de Bangui, enfin de Berberati, Bambari, Boussangwa et Boire doivent rester sur place. Ceux qui ont effectué le déplacement pour venir ici, il faudrait qu'ils retournent là-bas.
Le procureur général de la Cour d'appel de Bangui, Éric Didier Tambo, se réjouit du bon déroulement de la session criminelle qui prendra fin le 31 août prochain. Une affirmation faite lors d'une interview exclusive accordée à Guira FM le vendredi 24 août 2018. Au micro de Fleury Roger Koussarni, Éric Didier Tambo indique que la session criminelle a été une réussite en ce sens que les dossiers soumis à la Cour ont tous reçu une condamnation.
Nous avons au départ instruit 26 dossiers au rôle avec 35 accusés. Et donc, depuis que nous avons commencé cette session criminelle, nous n'avions pas eu des acquittements dans une procédure. Sinon, dans un dossier où il y avait 12 présumés criminels, il y avait un des accusés qui a été acquitté parce qu'il ne faisait pas partie de la procédure. Mais de tous les dossiers que nous avons évoqués, nous n'avons pas eu des accusés qui ont été acquittés dans une procédure. Et donc, nous pensons que nous avons eu des résultats puisqu'il y a eu de sévères condamnations. Le ministère public qui a pu amener les accusés devant la barre a pu avoir raison par rapport à la bataille juridique. Ça veut dire que les dossiers étaient bien ficelés, il y avait eu des charges suffisantes et la Cour, dans la plupart des dossiers, a suivi les réquisitions du ministère public. Donc nous pensons pour nous que cette session criminelle a eu une réussite totale parce que dans tous les dossiers, le ministère public était suivi et il y a eu des condamnations.
Rappelons que la session criminelle a démarré ses travaux le 16 juillet dernier.
Guira FM.
Volet santé sur les 93.3 FM. Le ministre de la Santé a lancé hier une ligne verte pour la prévention et la lutte contre le virus Ebola en Centrafrique. 1212 est ce numéro qui devrait permettre aux populations centrafricaines d'appeler gratuitement de prévenir tout cas suspect au virus Ebola dont ils ont connaissance. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé précise que ce numéro devra aussi permettre aux patients de dénoncer les mauvais traitements dans les hôpitaux. Wilfried Marius Dani Wanikoman au micro de Merveille Nuela Mada.
Pourquoi avoir une ligne verte en dehors des épidémies? On doit améliorer la qualité de la prestation dans les formations sanitaires et apporter une solution immédiate aux différents désagréments qui s'installeront dans les formations sanitaires. Il suffit seulement d'avoir un numéro, un téléphone. Et même que vous avez du crédit ou pas, vous composez le 12-12. Vous aurez quelqu'un qui va vous répondre, qui va collecter vos plaintes, qui va enregistrer vos plaintes et les transmettre aussitôt au chef de département pour des différentes actions à prendre dans l'immédiat. C'est pourquoi nous demandons au public centrafricain de nous aider à améliorer les conditions de prise en charge dans les formations sanitaires. Et ils avaient des revendications, des observations. Malheureusement, il n'y a pas une autre possibilité pour eux de contacter directement le département de la santé.
Parlons maintenant de la fin vendredi des travaux de l'atelier sur la santé mentale et les violences sexuelles basées sur le genre. Un atelier qui a débuté le mercredi dernier à Bangui. Il a été organisé par la Croix-Rouge française dans le cadre du projet Bécoute 2. Une quarantaine de volontaires et mobilisateurs communautaires ont eu durant les 3 jours de travaux à renforcer leurs capacités dans le domaine de la santé mentale, psychosociale et les différentes formes de violences basées sur le genre. Une des participantes, Jocelyne Koyenge-Zenga, nous livre ses impressions.
À l'issue de cette formation, j'ai appris beaucoup de techniques me permettent de faire la sensibilisation auprès des victimes, d'aider ma communauté. En ce qui concerne la violence sexuelle, c'est un thème que la plupart des populations centrafricaines ne maîtrisent pas bien. Du coup, si une personne a été violée au niveau du communauté, on commence maintenant à les stigmatiser, à les discriminer. Mais cette formation permet d'avoir des techniques, des bons messages à lancer. Durant, nous avons dans un premier temps étudié la santé mentale. La santé mentale, c'est un bien-être que tout le monde a besoin d'en avoir et maintenant de surmonter toutes les difficultés qui s'en suivent. Sur le plan national, nous avons plusieurs types de violences en ce qui concerne notre pays. C'est à dire aux populations qu'est-ce que c'est que ces différents types et s'il y a un cas de violence qui arrive dans la communauté, comment prévenir cette violence-là et nous devons aussi l'orienter ces victimes, les services bien spécialisés, les services médicaux, les prises en charge psychologiques, les prises en charge socio-économiques et maintenant la insertion sociale ou encore l'accompagnement juridique dont tu auras besoin de poursuivre l'affaire.
Dira FM.
Volet éducation dans ce journal. À Bémal, avec le retour des déplacés après les violences, la situation administrative et éducative est incertaine après une année scolaire perdue à titre de l'année 2017-2018. Notre envoyé spécial Simplice Sinkerdoyan nous fait le point.
Bémal est une localité située à une centaine de kilomètres au nord de Paoua et à 10 kilomètres de la frontière centrafricano-tchadienne. Le calme est revenu avec la présence des forces armées centrafricaines, mais la situation administratives et éducatives sont alarmantes. Aucune présence des agents de l'État. Du côté de l'éducation, les écoles n'ont pas du tout fonctionné. La rentrée académique de cette année 2018-2019 est incertaine. Mbombe Josias est maître parent à Bémal. Écoutons son témoignage.
Pour la situation de l'éducation, vraiment, nous prenons courage d'encadrer les enfants. Mais dommage, aux événements qui s'est passé, parfois, nous avons manqué tellement de documents. Pas de documents, nous brûlons avec des mémoires secs pour encadrer les enfants.
Pour cette rentrée scolaire qui s'annonce, ce maître parent lance un cri d'alarme au gouvernement et aux autorités académiques compétentes pour la relance des activités scolaires dans cette ville. Josias Mbombi.
À l'État de nous donner des coups de main par rapport aux documents pour l'encadrer les enfants. La rentrée, les charges de la rentrée, c'est à nous. Mais normalement, c'est l'État qui doit prendre en main pour que le courage vienne propre pour l'encadrement. Sinon, nous sommes prêts. Mais nous attendons toujours la loi.
Malgré cette situation difficile, les humanitaires mènent des activités aussi. La présence des forces armées centrafricaines rassure la population.
Guira FM, dossier sport.
17e journée du championnat de la Ligue de Bangui. 2 matchs sont au programme cet après-midi. En 2e division à 14h, l'Espoir Club de Bégoua affronte le Sporting Club de Bangui et à 16h en 1e division, Asset de Gobongo dispute la manche avec Sika Sport. La finale de la Coupe de l'Espoir organisée par le gouvernement en partenariat avec l'ambassade de la Russie se joue cet après-midi en présence du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Les deux finalistes ne seront connus que ce matin à l'issue des demi-finales qui vont se jouer dans la matinée. Le tournoi qui n'a duré que 2 jours vise à mobiliser les jeunes autour du football afin de parler le langage du vivre ensemble. Au micro de Fridolin Wamombo, Serge Trot, coordonnateur du tournoi, revient sur l'importance de la compétition.
Bon, c'est un tournoi qui devait mobiliser toute la capitale bonguissoise en 2 jours. Donc, mobiliser toute la population pour rester ensemble pendant 2 jours et vivre la fête du football. C'est l'objectif. Parce que si on joue dans les arrondissements de manière éparse, il n'y a pas vraiment d'engouement et puis il n'y a pas la mobilisation. Les gens ne vont pas être ensemble. Nous demandons au public de venir très nombreux. Nous jouons sous le signe de la cohésion sociale, du vivre ensemble. Et donc, nous demandons à tous les arrondissements, combien même qui sont éliminés, de venir massivement assister à la finale.
En sport toujours, l'équipe des journalistes joue ce matin un match amical face à Skangba des Transivilla. C'est depuis près d'un an que les journalistes n'ont pas livré de match amical. Le match aura lieu sur le terrain de l'INJS.
L'invité de la rédaction.
L'invité de la rédaction de ce jour est l'inspecteur du fondamental 1 de la circonscription scolaire de la Haute-Côte. Il nous parle des actions entreprises dans le cadre de l'amélioration du système éducatif et scolaire dans la préfecture de la Haute-Côte. Jacques Kangapou répond aux questions de Christian Balou.
Jacques Kangapou, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Alors Jacques Kangapou, vous êtes l'inspecteur du fondamental 1 de la circonscription scolaire de la Haute-Côte. Alors depuis plusieurs mois, vous lancez des plaidoyers à l'endroit des différents partenaires de l'éducation afin qu'ils vous viennent en aide, qu'ils vous appuient. Alors qu'en est-il exactement ?
Je vous remercie infiniment. Il vous souviendra qu'à la fin des examens de l'année, nous avons lancé un plaidoyer à l'endroit de tous les partenaires qui interviennent dans le système éducatif dans la Haute-Côte. Et aujourd'hui, nous pouvons nous estimer heureux parce que cet appel a porté fruit. Et donc, pour l'instant, il y a déjà des actions concrètes qui sont en train d'être menées. Pour preuve, nous venons à peine de finir les cours de vacances appuyés par l'ONG Idéal et qui a été d'abord une gageure parce que l'année passée était un peu écourtée et donc ce rallonge a été au profit de nos enfants. Il y a encore l'ONG COPI qui a déjà présenté son plan d'action et qui compte réhabiliter certaines écoles, les 3 ici à Bria-Centre, et même des activités allant dans le sens de la formation des maîtres parents qui seront même prises en charge par la dite ONG.
C'est vrai qu'il ne faut pas oublier la MINUSCA. Hein, qui...
Je vous remercie. Non, mais ça, la MINUSCA est le partenaire traditionnel qui nous appuie dans plusieurs activités et même la MINUSCA est prête pour la réhabilitation de l'école Dounia dans le cadre du projet à impact rapide. Et donc, il y a vraiment plusieurs activités, et même sur le plan sécuritaire. À chaque fois que nous avons des activités de pointe dans le domaine éducatif, c'est la MINUSCA qui sécurise ces activités.
C'est vrai que les différents plaidoyers que vous avez lancés à l'endroit des partenaires, ces plaidoyers ont également touché le gouvernement qui n'est pas resté sans rien faire. Il y a des actions qui sont en cours.
Oui, effectivement, le gouvernement a fait des efforts inouïs. Et cette année, il y a eu déjà une intégration massive des enseignants du Fondamental 1. Et certainement que bon, ceux qui seront affectés dans la zone, l'inspection académique du Centre-Est, nous aurons une partie. Et c'est à partir de là maintenant que nous allons les dispatcher dans les écoles. Donc, il y a un effort dans ce sens-là.
Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les parents d'élèves.
Tout à fait. Nous pouvons nous estimer heureux. Toute la communauté éducative de la Haute-Côte peut déjà se sentir à l'aise un tout petit peu avec cette bouffée d'oxygène dès qu'ils seront affectés. Ça va constituer vraiment un plus dans le système éducatif au Fondamental 1 à Bria.
Donc les enseignants titulaires seront en nombre suffisant à la rentrée scolaire 2018-2019. Alors Jacques Kakapou, je rappelle que vous êtes l'inspecteur de l'enseignement fondamental de la circonscription scolaire de la Haute-Côte. Nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Alors nous sommes dans les vacances également. Qu'est-ce qui est fait pour ces enfants qui, ma foi, se reposent afin de pouvoir revenir l'année prochaine? Alors, qu'est-ce qui est fait pour le renforcement de leur capacité, pour continuer, pour qu'ils soient toujours dans le bain.
Depuis le 16 juillet au 16 août 2018, pendant ces grandes vacances, avec l'appui de l'ONG Idéal, nous avons organisé des cours de vacances. Et ces cours de vacances ont porté leurs fruits parce que durant un mois, nous avons mis l'accent sur les matières de base, à savoir le français, plus précisément la discipline, enfin la lecture et l'écriture et les notions de calcul, arithmétique, système métrique, problèmes pratiques, géométrie et calcul mental. Alors, ces connaissances instrumentales étant dispensées, nous osons croire que c'est déjà une ouverture. C'est vraiment un complément qui peut nous aider d'ici la rentrée prochaine.
Jacques Kakapou, inspecteur de l'enseignement du fondamental 1 de la préfecture de la Haute-Côte, je vous remercie.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie infiniment.
Cet entretien de Jacques Kangapou avec Christian Gbalou met fin à cette édition. C'était le journal de Guira FM préparé par la rédaction et présenté par Félicité Yamété avec l'appui technique de Samson Rodrigue Andjoukara. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. Bon début de la journée à tous. Restez branchés sur Guira FM.
Mise en œuvre du programme de réduction de violences communautaires en Centrafrique. Notre invité spécial de ce jour est RVS, officier à la division DDR de la MINUSCA. Avec Boris Gouagoni, RVS revient sur la campagne de sensibilisation qui se déroule actuellement auprès des comités locaux de paix et de réconciliation, CLPR à Bangui. Suivant.
RVS, officier à la division DDR de la MINUSCA, bonjour.
Bonjour Boris.
La division DDR de la MINUSCA organise depuis quelques jours une campagne d'information et de sensibilisation sur le programme CVR auprès des comités locaux de paix et de réconciliation CLPR de Bangui. Le pourquoi de cette activité et quels sont les objectifs recherchés?
Alors, je voudrais d'abord commencer en rappelant la signification de l'acronyme CVR, ou plutôt en français RVC, réduction de violence communautaire. La réduction de violence communautaire, telle que nous entendons la mener ici à Bangui, vise à stimuler un changement de mentalité, je dirais, un changement de comportement dans le chef d'éléments qui sont parfois vus comme les plus enclins à l'usage de la violence à l'intérieur de certains quartiers de la ville. C'est donc clairement un projet qui, à travers une aide à la réinsertion économique de ces éléments enclin ou ayant utilisé la violence ou qui sont encore enclins à vouloir le faire, c'est en les aidant à se réinsérer économiquement que nous souhaitons provoquer ce changement de comportement. Accessoirement et en parallèle avec ça, nous sommes aussi en train de promouvoir ce que je qualifierais de collecte d'armes ou désarmement civil en conjonction avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre.
Alors, quelles sont les localités concernées dans la ville de Bangui? Et quel est le nombre de personnes visées?
Alors, le projet qui est de la phase 3 d'un projet qui a commencé il y a 2 ans vise cette fois-ci 1100 participants, 1100 bénéficiaires qui seront répartis entre les 3e, 4e, 5e, 8e arrondissement ainsi que Bimbo.
En termes d'activités, quelles sont les différentes activités prévues dans le cadre de cette campagne et quels sont les groupes concernés?
Alors, les activités, tout d'abord, elles seront essentiellement, comme je l'ai déjà annoncé dans la première intervention, basées sur une aide à la réinsertion socio-économique. Pour ce faire, nous allons fournir des formations professionnelles. Enfin, nous allons fournir nos partenaires de mise en œuvre, bien sûr. UNOPS et des ONG locales vont former, professionnellement parlant, les participants pendant une période de 3-4 mois. À l'issue de cette période de formation professionnelle, les participants, les bénéficiaires recevront les moyens, les outils nécessaires pour le lancement d'activités génératrices de revenus et ils seront accompagnés par ces mêmes ONG, par les comités locaux de paix et de réconciliation également, accompagnés, coachés, de sorte qu'ils ne se découragent pas et persévèrent. Donc là, je viens de citer 2 grands types d'activités, je dois en citer un 3e mais qui sera présent pendant toute la durée du projet, c'est la sensibilisation, l'éducation à la citoyenneté responsable, à la cohésion sociale et à la réconciliation.
Vous venez de parler des comités locaux de paix et de réconciliation. Pourquoi choisir ces comités locaux de paix et de réconciliation pour cette campagne? Et quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces CLPR?
Alors, Clairement, puisque nous parlons ici de réduction de violences communautaires, nous souhaitons nous adresser aux communautés concernées dans les arrondissements que j'ai cités. Quelle autre interface, peut-être, que les comités locaux de paix et de réconciliation ? Les mots paix et réconciliation cadrent parfaitement avec l'objectif de la réduction de violences communautaires. Ces structures existent déjà. Il est inutile de dupliquer les structures. Autant utiliser les structures mises en place qui sont habituées à travailler avec les autorités locales. Les maires, les chefs de groupe, les chefs de quartier. Et donc, nous souhaitons bien sûr les responsabiliser et favoriser l'appropriation nationale et l'appropriation communautaire, en substance ici, de ce projet. Ces comités locaux seront appelés, entre autres, à établir la liste des participants. Parce que qui d'autre mieux qu'eux peuvent connaître les jeunes qui sont dans le besoin d'évoluer vers un comportement plus citoyen. Donc ils vont établir ces listes de bénéficiaires, ils vont nous accompagner à travers tous les efforts de sensibilisation qui vont durer toute la durée du projet, donc à travers les formations, mais également pendant la période de mise en œuvre des activités, de lancement des activités génératrices de revenus. Ils vont nous accompagner dans les efforts de collecte d'armement, ils vont participer à la sensibilisation de la communauté pour favoriser ce que je qualifie de désarmement civil. Ils vont servir d'interface entre les participants de leur communauté et je vais dire le gestionnaire du projet que sera UNOPS et la section DDR de la MINUSCA.
Quelle sera la suite ? Quelle sera la suite après cette phase d'information et de sensibilisation ?
Eh bien, dès réception des listes qui auront été établies, des listes de participants qui auront été établies par les comités locaux de paix et de réconciliation, nous allons lancer la phase d'enregistrement et de profilage socio-économique des participants. En quoi consistera ce profilage économique ? Si nous avons pour objectif de former professionnellement les participants, il faut savoir ce qu'ils savent déjà faire et ce qu'ils souhaiteraient faire. Et donc, il est indispensable que nous leur posions quelques questions sur leurs capacités et leurs souhaits. Ce sera le profilage économique. Dès que nous aurons rassemblé toutes les données pour l'entièreté des participants de Bangui, c'est-à-dire 1100 personnes, nous allons bien sûr les répartir par filière professionnelle et mettre en œuvre les activités de formation professionnelle.
Alors, pour terminer, quel est votre mot de la fin ? Mot de la fin à l'endroit de la population par rapport à la contribution du programme CVR pour le retour de la stabilité en RCA ?
Alors là, c'est une question nettement plus générale qui ne cadre pas nécessairement ou ne se limite pas au projet CVR phase 3 Bangui. La réduction de violences communautaires fait partie de la stratégie globale de DDR du pays. Vous avez certainement entendu parler du programme national de DDRR. Ce programme adresse ceux que l'on qualifie les éligibles. Je pense avoir déjà expliqué devant ce micro quels étaient les éligibles au programme national de DDR. Ce sont les membres dont l'appartenance à des 14 groupes armés reconnus est certifiée et qui remettront une arme de guerre lorsque le programme national de DDR sera lancé. Si nous parlons d'éligibles d'un côté, il faut donc parler de non-éligibles de l'autre côté. Les programmes de réduction de violences communautaires sont entre autres, mais pas seulement, destinés à prendre en compte les non-éligibles au programme national de DDR. En ce, ils font partie de la stratégie national de DDR. C'est également un instrument de stabilisation pour les communautés. Le programme national de DDR n'exercera peut-être pas ses activités précisément dans toutes les localités du territoire et les activités ou les projets de réduction de violences communautaires peuvent contribuer à aider les communautés à un retour à la paix et à la cohésion sociale là où le programme national de DDR ne déploiera pas ses activités. Enfin, clairement, c'est une contribution à l'effort global de stabilisation, de sécurisation de la Centrafrique qui créera ou contribuera à créer, avec d'autres efforts, les conditions nécessaires pour les progrès vers le développement. Et avant de conclure, je voudrais quand même rajouter une toute dernière précision. Les comités locaux de paix et de réconciliation travaillent vraiment de manière bénévole. Hein. Ils sont absolument pas payés. C'est leur engagement envers la paix et la réconciliation nationale qui est le moteur de leur action. Ils ne sont pas payés, c'est très important à comprendre, ils sont bénévoles. Je vous remercie.
Hervé S., officier à la division DDR de la MINUSCA, je vous remercie.
Merci Boris, au revoir.
C'était RVS, officier à la division DDR de la MINUSCA. Avec Boris Kouagouni, il nous a parlé de la campagne de sensibilisation qui se déroule actuellement auprès des comités locaux de paix et de réconciliation, CLPR, à Bangui.